tu le veux. Quatre petits mots lourds de sens et de conséquences. Si tu le veux. Notre vie morale et notre fin ultime dépendent de ces quatre petits mots. Dans le livre de Ben Sira, le sage, la parole de Dieu nous met en face de notre responsabilité de personne humaine, créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cette dignité inaliénable s'accomplit dans notre vocation à la béatitude divine. À nous de nous porter librement à cet accomplissement. Dieu ne nous force pas la main. Dieu ne nous met pas le couteau sous la gorge. Dieu nous laisse faire notre choix. L'eau ou le feu, la vie ou la mort, si tu le veux. Les chrétiens défendent ainsi le droit de chaque personne à être reconnue comme libre et responsable de ses actes. Bien sûr, l'ignorance, l'inadvertance, la violence, la crainte, les habitudes, les affections immodérées et d'autres facteurs psychiques ou sociaux peuvent porter atteinte plus ou moins gravement à notre pouvoir de poser des actes délibérés. Mais dans la majorité des cas, il n'appartient qu'à nous d'étendre la main vers ce que nous préférons, la vie ou la mort, si tu le veux. Voici une petite anecdote entendue dans la bouche du prêtre salésien Jean-Marie Petitclerc, dont l'œuvre d'éducation est implantée dans plusieurs villes de banlieue en France. Je cite. Pendant 20 ans, on a cessé de dire, et moi le premier, que si les jeunes étaient violents, c'était de la faute de la société, du chômage, de l'exclusion. Cette analyse est parfaitement valable du point de vue sociologique. Il est évident qu'il y a plus de risques de devenir délinquant à Chanteloup-les-Vignes que dans le 16e arrondissement de Paris. Mais ce discours est désastreux du point de vue pédagogique, parce qu'il semble ôter toute part de responsabilité aux jeunes. Un jour, je demandais à des enfants qui avaient incendié des voitures pourquoi ils avaient fait cela. L'un d'entre eux m'a répondu « Mon père est au chômage, mon frère est en prison, alors moi je brûle des voitures. » Je lui ai répondu qu'au moment où il avait l'allumette dans une main, la boîte d'allumettes dans l'autre, c'était bien lui et personne d'autre qui avait pris la décision de les frotter l'une contre l'autre. À cet instant-là, que venaient faire son père au chômage et son frère en prison ? Fin de citation. Oui, Dieu nous a créés libres. C'est notre dignité, mais c'est une fameuse exigence. Car nous ne pouvons nous défausser sur personne, pas même sur Dieu. Il n'a commandé à personne d'être impie. Il n'a donné à personne la permission de pécher, avons-nous entendu dans la première lecture. Nous ne pouvons pas non plus avancer que nous sommes les victimes des circonstances quand nous posons des actes dont nous savons qu'ils nous séparent des autres, de Dieu et en définitive de nous-mêmes. Nous pouvons grandir en liberté ou bien devenir esclaves de notre péché. Cela ne tient qu'à notre bon ou mauvais vouloir, si tu le veux. Et voilà un point important. Notre liberté n'est véritable que lorsqu'elle s'oriente vers le bien. L'abbé Pierre disait avec justesse « Tu n'es pas libre d'aimer ou de ne pas aimer. Tu es libre d'aimer. » Il voulait signifier ainsi qu'il n'y a de liberté vraie qu'au service du bien et de la justice. Et c'est aussi le sens que nous pouvons donner aux paroles de Jésus entendues dans l'Évangile. En prélude à son enseignement moral, Jésus pose clairement les choses. Il n'est pas un révolutionnaire, au sens où il viendrait faire table rase du passé, bouleverser les normes qui régissent les rapports sociaux à son époque, ou s'arroger une autorité exclusive en matière de morale. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Celui qui observera les commandements et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. On pourrait presque taxer Jésus de conservatisme. Cependant, il opère bien une révolution morale en faisant comprendre à travers divers exemples quelque chose d'essentiel. Un acte n'est vraiment bon que si l'intention avec laquelle nous le posons est bonne. Ainsi, faire l'aumône, prier et jeûner ne suffisent pas. Encore faut-il agir sans vouloir se montrer pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Autre exemple. Objectivement, vous donnez tous les signes de la gentillesse vis-à-vis de votre belle-mère. Mais vous avez en tête la jolie maison familiale qu'elle pourrait bien vous léguer à sa mort. Alors attention, je ne vous dis pas d'être hostile à votre belle-mère, mais d'être vraiment gentil avec elle. C'est sans doute bien plus dur, n'est-ce pas? Pour être juste, c'est-à-dire ajusté à Dieu et à ses commandements, il convient d'accomplir ces mêmes commandements avec une intention droite. Et c'est ainsi que l'appel de Jésus à surpasser la loi des scribes et des pharisiens prend tout son sens. Nos actes bons ou mauvais s'enracinent là où se lisent nos intentions, dans notre cœur. Oui, c'est dans notre cœur que naissent les péchés les plus graves, contre lesquels nous prémunissent les 10 commandements, mais aussi les peccadilles, ces péchés dits véniels qui n'en sont pas moins des péchés. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Les images utilisées par Jésus sont très fortes. Gêne de feu, synonyme de l'enfer, pour une injure lancée à son frère. Œil droit arraché pour un regard de convoitise. Main droite coupée pour un geste déplacé. Certes, il y a sans doute une exagération recherchée dans ces expressions pour frapper l'auditoire, une exagération toute méditerranéenne. Mais Jésus nous fait comprendre sans doute, par là, qu'il faut extirper tout mal de notre cœur, déraciner ce mal dont les fleurs sont le délice du mauvais. Or cela, nous le savons, nous semble souvent impossible à faire par nous-mêmes. Comment vivre la radicalité de l'Évangile? Si tu le veux, facile à dire. Et nous voyons bien que même nos actes mauvais entachent nos actes bons. Inutile de venir à la messe si nous sommes fâchés avec notre frère. On laisse là l'offrande et on va d'abord se réconcilier avec le frère. C'est impossible. L'enseignement de Jésus sur le mont des Béatitudes n'est pas seulement l'accomplissement de celui reçu par Moïse sur le Sinaï. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, eh bien moi je vous dis. Il est aussi une révélation, comme le souligne saint Paul dans la première épître aux Corinthiens. Lorsque nous voulons discerner le bien du mal par nos propres forces, cela ne nous mène pas toujours sur les bonnes voies et peut nous conduire loin de Dieu, voire dans l'impasse. Se référer au récit de la chute au début du livre de la Genèse. C'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils, la révélation ultime et définitive en personne. C'est lui, la sagesse tenue cachée, établie dès avant les siècles pour nous donner la gloire. C'est lui, la loi. Écoutez Jésus, parole vivante du Père, gardez sa loi d'amour dans notre cœur et la méditer. Voilà qui peut nous aider à discerner entre sagesse de ce monde et sagesse du mystère de Dieu. Jésus, la sagesse incarnée, comme dirait saint Louis-Marie Grillon de Montfort, nous propose un chemin difficile qui passe par la croix, mais ce chemin est celui du vrai don de soi, qui ne triche pas et qui nous humanise, un don qui nous rend heureux. Dans la prière personnelle, en relisant le psaume de ce jour par exemple, et en communiant tout à l'heure, demandons à Jésus son esprit de discernement afin que nous grandissions dans la liberté de faire le bien. Si tu le veux, mais pas sans la grâce de Dieu. Amen.